Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre permanent d'initiative pour l'environnement
et la Réserve naturelle nationale de Chérine. Dans l'émission Ça donne pas le bourdon, tous ensemble, parlons d'environnement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la capsule de Ça donne pas le bourdon. Aujourd'hui, on continue de parler de sons et en particulier ceux émis par les oiseaux avec ceux qui ont encadré la formation professionnelle écologie acoustique, Sylvain Rey et Stanislas Broza. Je suis d'abord avec Stanislas Broza qui est l'un des deux formateurs de ornithologie acoustique. Bonjour Stanislas.
Bonjour.
Est-ce que tu peux d'abord te présenter et présenter aussi la formation ?
Alors Stanislas Broza, je travaille à l'Office français de la biodiversité, donc je m'occupe de problématiques de suivi des espèces et des habitats et je m'intéresse depuis très longtemps à la bioacoustique, donc je suis auteur notamment de 4 livres sur l'identification des oiseaux par le son aux éditions de Lachaud et Niesley.
La bioacoustique, qu'est-ce que c'est ?
La bioacoustique, c'est l'étude du vivant par les sons, donc on va enregistrer pour ce qui nous intéresse des oiseaux pour chercher à mieux comprendre ce qui se passe, à mieux les identifier, à mieux comprendre leur comportement.
Je suis avec le deuxième formateur de la formation, Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Et est-ce que toi aussi tu peux te présenter ?
Donc oui, je suis Sylvain Rey, je viens de Bretagne, donc pour animer cette formation. Je suis un petit peu multicasquette au niveau de mes différentes activités professionnelles. Alors j'ai une petite activité de formation, c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur d'autres années. Et après le reste de l'année, j'ai une activité de, on pourrait appeler ça d'expertise naturaliste, donc je réalise des inventaires, des suivis de la faune. Et pendant la période estivale, je suis également guide sur des bateaux pour des sorties en mer d'observation de la faune marine, donc essentiellement dauphins et oiseaux marins.
Donc plusieurs casquettes.
Plusieurs casquettes, plusieurs activités, ouais.
Là, la formation, elle se concentre sur l'acoustique ornithologique, donc sur les oiseaux. Est-ce que toi, tu as étudié l'acoustique sur d'autres espèces, d'autres classes ?
Oui, j'ai utilisé et analysé l'acoustique sur d'autres groupes d'espèces, en particulier sur ce qu'on appelle les chiroptères ou les chauves-souris. En fait, pour l'analyse des sons de chauves-souris, on utilise beaucoup notamment les sonagrammes, les spectrogrammes. Je pourrais en parler un petit peu plus en détail. Et on va aussi utiliser l'écoute qui va permettre en complément de séparer certaines espèces qui sont difficiles à séparer comme le groupe d'espèces des murins. Les murins sont des espèces voilà, assez proches qui émettent des signaux assez proches les uns des autres.
Comment on décrit les sons quand on en parle entre spécialistes ?
Alors on va se concentrer sur plusieurs propriétés des sons. On va se concentrer sur la hauteur, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est aigu ? On va se concentrer sur la durée, est-ce que c'est un son court, lent, rapide, est-ce que ça accélère ou pas ? On va se concentrer sur la structure, comment est-ce que ça évolue dans le temps ? Est-ce que c'est des petites phrases qui s'enchaînent rapidement ? Est-ce que c'est très fragmenté ou pas ? Et puis après, on va se concentrer sur quelque chose qui est un peu plus subjectif, qui est le timbre. C'est, est-ce que c'est plutôt nasillard, rêche, liquide ? Donc là, c'est des adjectifs qu'on peut mettre, mais on a moyen d'objectiver ça en utilisant une autre approche en bioacoustique.
Et cette autre approche, c'est après un travail que vous faites sur les sons que vous avez enregistrés ?
C'est ça. On peut écouter avec ses oreilles, mais on peut aussi transformer les sons en images, ce qu'on appelle un sonagramme. Et donc, ça nous permet de voir tout plein de détails sur des graphes qui correspondent à différentes espèces. Donc, chaque espèce a une forme qui lui est propre. Ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse des sons que ceux dont sont capables nos oreilles.
Ces représentations visuelles du son, elles peuvent nous permettre de mieux voir des choses qui sont difficiles à entendre. Elles peuvent aussi nous permettre de visualiser des petites différences entre espèces que notre oreille ne nous permet pas de capter.
Voilà, donc en fait, il faut quand même passer par la vision pour essayer d'analyser les sons.
Dans certains cas, c'est quasi impossible de différencier certaines espèces uniquement à l'oreille, oui.
D'accord.
nous, en fait, on a beaucoup de mal à analyser les sons qui sont extrêmement rapides. Donc, par exemple, si je donne l'exemple d'un concert symphonique, il y a plein d'instruments. Vous, vous entendez une mélodie d'ensemble, vous n'êtes pas capable de dire quel violon joue quelle partition. Et bien, c'est un peu la même chose. Nous, quand on entend un chorus matinal, des fois, on est un peu perdu. Et donc, cette approche par sonagramme, elle va nous permettre de remettre ce que chaque espèce fait et de pouvoir regarder en détail.
Donc, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à la fois à ce qui se passe dehors et puis après avoir un retour plutôt devant un ordinateur ou devant un appareil pour décortiquer les sons. C'est ce que vous faites pendant la formation ?
Donc, pendant la formation, c'est ça. On fait beaucoup, beaucoup de terrain, mais on fait aussi de la partie en salle pour décortiquer un peu les sons qu'on a pris, regarder de plus près ce qui se passe.
Et quand vous allez recueillir les sons sur le terrain, comment ça se passe ? Est-ce que c'est toujours au même endroit ? Est-ce que vous changez un peu de milieu ?
Pendant la formation, on essaye de voir un maximum d'espèces pour que les gens puissent s'habituer aux différentes espèces qui sont susceptibles d'entendre autour de chez eux. Donc nous, on va faire un maximum de milieux. On a fait de la zone humide, on a fait de la forêt, on a fait du milieu ouvert, on a fait du coteau calcaire ce matin. Donc on essaye de faire beaucoup d'habitats et comme ça, ça nous permet d'entendre tout un tas de cortèges d'espèces qu'on peut avoir sur ces points d'écoute plus tard.
En fait, il faut savoir que chez les oiseaux et chez d'autres groupes faunistiques, d'autres groupes d'animaux, eh bien, les espèces sont soit généralistes, donc présentes dans plusieurs types de milieux, soit spécialistes. Et donc, on a eu la chance, par exemple, en allant parcourir des milieux humides, d'entendre certaines espèces qui sont spécialistes de ce type d'habitat, comme toutes les fauvettes aquatiques, par exemple, certains canards, des marouettes, des râles d'eau. À l'inverse, on a aussi fait des milieux forestiers. Donc là, on a entendu le cortège des espèces forestiers, comme le piquet-pêche, la citelle torche-peau, toutes les mésanges, par exemple, le grimpereau des jardins, etc. etc. On a aussi été dans des milieux plus ouverts, où là, par exemple, l'espèce assez classique, c'est la louette des champs, qui va égrener son champ quasiment de manière continue, son champ roulé assez caractéristique là, qu'on entend au-dessus des prés et des champs.
Et est-ce que vous changez aussi l'heure d'écoute, la période ?
Tout à fait, on varie, donc on a fait des points d'écoute à l'aube, on a fait des nocturnes, on a fait des sorties le soir, et parfois on écoute aussi en début d'après-midi quand c'est plus calme, parce que ça permet de mieux isoler les différents sons.
Et c'est donc différentes espèces qui chantent à différents moments du jour et de la nuit, ou c'est différents comportements qu'on observe ?
Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine, parce que, évidemment, il y a des espèces qui ont des cycles horaires différents. Donc, si on s'intéresse aux chouettes, on a plutôt intérêt à y aller la nuit. Il y a des espèces qui sont très actives à l'aube et au crépuscule. Et puis, il y a des espèces qui chantent toute la journée. En pleine journée, on va avoir davantage de cris, alors que le matin, on va avoir davantage de chants. Donc, on essaye de couvrir tout ça.
C'est quoi, d'ailleurs, la différence entre le cri et le chant ?
Le chant, c'est quelque chose qui est plus sophistiqué, qui est plus élaboré. En général, c'est des motifs qui s'enchaînent d'une manière assez complexe, ça forme des phrases entières. Alors que le cri, ça va être très court. Ça va être un simple cri de contact, souvent quelque chose qui dure moins d'une seconde et qui se compose d'une seule ou deux notes.
D'accord. Est-ce qu'il y a des espèces qui vous ont fait plaisir à écouter pendant cette formation ?
On a eu beaucoup de chance pendant cette formation puisqu'on a eu tout un tas d'espèces communes, mais on a aussi eu des espèces moins communes. Alors on a eu par exemple la chance d'entendre de la marouette poussin, ce qui est quand même très difficile à entendre en France, donc une espèce qui se cache dans les roselières.
Et, de petite poule d'eau un peu marron.
C'est ça, c'est une genre de petite poule d'eau un peu marron qui vit cachée dans les roselières et qu'on entend très rarement en France. Donc là c'était quand même vraiment un privilège pendant cette formation de pouvoir en enregistrer avec les stagiaires.
Oui, ça fait quand même un sacré cortège d'espèces.
Oui, là, on a dépassé la centaine d'espèces juste aujourd'hui.
Donc, c'est pas mal pour les stagiaires qui viennent.
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, les stagiaires, comme c'est une formation professionnelle, quel profil ils ont et comment ils vont réutiliser ce qu'ils apprennent pendant cette formation dans leur mission, dans leur métier ?
Alors, ce sont des gens qui, de près ou de loin, travaillent dans l'environnement. Ça peut être des personnes qui travaillent pour les services de l'État comme l'Office français de la biodiversité. Ça peut être des gens qui travaillent en association, par exemple en association de protection de la nature, et donc ils sont amenés à réaliser des inventaires dans leur travail quotidien. Ça peut être des gens aussi qui travaillent dans le tourisme. On a une personne là qui est animatrice sur des bateaux sur la Loire. Et bah, du coup, elle va utiliser les chants d'oiseaux pour faire un travail d'animation. Ça peut être aussi des gens qui travaillent dans des CPIE, justement, et qui sont animateurs et qui vont utiliser les éléments appris là, pendant la formation dans leur travail.
Ouais, donc en fait, c'est des profils très, très diversifiés.
Oui, c'est assez diversifié, oui.
Tu l'as déjà dit, il y a un cortège de sons d'oiseaux très très variés et très, en grande quantité aussi. Est-ce qu'il y a des moyens, des repères pour reconnaître les différentes espèces ou s'en souvenir aussi ?
Donc nous, on donne plein de critères d'identification qui sont plutôt basés sur des paramètres de structure, de son, parfois même de sonagramme. Mais il y a des moyens mémotechniques beaucoup plus simples. Par exemple, on a enregistré du bruant proyé ce matin et le bruant proyé, en fait, c'est une perle qui ricoche sur une table. C'est assez caractéristique.
D'accord. Oui, en fait, c'est plein de petites choses comme ça pour relier les sons qu'on entend à des choses qu'on connaîtrait.
Exactement. Le Puyo Veloz, par exemple, il compte des pièces. C'est comme des pièces qui tombent sur un tas. Ça fait tchif-tchaf, tchif-tchaf, tchif-tchaf. Et d'ailleurs, son nom anglais, c'est tchif-tchaf.
Oui, j'en ai un auquel je pense comme ça, qui est assez, assez rigolo. C'est celui du Raldo, dont le cri ressemble vraiment à celui d'un porcelet qui se sentirait au plus mal, presque comme un porcelet qu'on égorgerait.
En plus, ça détonne un peu avec le Raldo, qui est plutôt joli comme oiseau. On ne pense pas qu'il fait ce son-là.
Oui, c'est assez surprenant. Et c'est vrai que si on ne connaît pas du tout le cri de l'espèce, on peut vraiment passer un certain temps avant de deviner de quelle espèce il s'agit. Oui.
Ce qui n'est pas forcément très rassurant quand on se balade.
Oui, tout à fait. Ça a une sonorité un peu inquiétante. Ouais.
Et est-ce qu'il y a des oiseaux qui t'ont marqué aussi par leur chant ou qui ont un chant que tu apprécies particulièrement?
Oui, tout simplement. Dans les oiseaux du quotidien, ça fait les oiseaux du quotidien sont aussi des espèces que j'apprécie beaucoup parce que voilà, on est au contact de ces espèces tous les jours. Et simplement, le chant du merle noir est un de mes chants préférés. Il est extrêmement créatif, avec beaucoup de variations d'un chant à l'autre, très mélodieux, donc c'est un chant que j'aime beaucoup.
Moi, un chant qui m'impressionne toujours, c'est celui de la rousserolle verderolle, parce qu'en fait, elle ne fait que des imitations, pratiquement. C'est-à-dire que quand elle chante, elle va imiter parfois plus d'une centaine d'espèces qu'elle a entendues dans son environnement et même pendant sa migration. Donc quand on a une rousserolle verderolle, on a non seulement la rousserolle verderolle, mais on a en plus l'information sur tout le cortège d'espèces qui est présent dans le milieu où elle habite. Et ça, c'est vraiment spectaculaire.
Donc on l'aura compris, en fait, les oiseaux, ils utilisent beaucoup les vocalises. Est-ce que nos activités et les bruits qu'on produit avec nos activités ont une influence sur eux ?
Oui, alors d'un point de vue scientifique, généralement, on distingue la biophonie de l'anthropophonie. La biophonie, c'est les sons du vivant, et l'anthropophonie, c'est les sons des activités humaines. Et donc nous, on produit beaucoup de sons dans les fréquences graves, les bruits d'avion, les moteurs de voiture, les activités de travaux, par exemple. Donc tout ça, ces sons dans les fréquences graves, ça crée de la pollution sonore. Et les oiseaux vont parfois chercher à s'adapter à cette pollution sonore en chantant soit plus fort, soit plus aigu justement pour se dégager de ces fréquences graves. Donc ça a un impact sur le vivant.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent de notre rythme de vie, de notre mode de vie qui impactent les oiseaux ?
Il y en aurait en fait énormément. C'est vrai que il y a tout un tas de pollution qui affecte les oiseaux. Alors pour faire un petit lien avec la pollution acoustique, comme ça je pensais à la pollution lumineuse, même si c'est clairement pas le type de pollution qui a le plus d'impact. Mais pour faire le lien avec ce que disait Stanislas tout à l'heure, eh bien le milieu urbain va aussi affecter en fait l'utilisation du chant par les oiseaux, dans la mesure où les oiseaux vont chanter plutôt en milieu urbain, parce qu'il fait le jour un petit peu plus tôt, parce que en fait le milieu est très éclairé, donc ça va stimuler l'activité de chant. Et ce qui contribue à ça aussi, c'est le fait que le milieu urbain est un petit peu plus chaud que le milieu naturel. C'est un petit peu des îlots de chaleur en ville. Et donc ça, voilà, ça va aussi contribuer au fait que les oiseaux chantent plus tôt en ville.
D'accord. Eh bien, merci Sylvain.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Stanislas.
Merci beaucoup.
Merci à Sylvain et Stanislas d'avoir participé à cette capsule et pour nous avoir aussi transmis les enregistrements des chants d'oiseaux qui l'animent. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour parler du suivi d'une espèce bien particulière d'oiseau par son chant.
Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement
et la Réserve Naturelle Nationale de Chérine. Dans l'émission Ça donne pas le bourdon, tous ensemble, parlons d'environnement.